Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore. Et nous avons un invité, Frédéric Barriot, qui va nous parler de l'engagement des chrétiens, des catholiques dans les milieux populaires, particulièrement dans les années 60 et 70. Frédéric Barriot est doctorant en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, où il complète une thèse sur l'itinéraire spirituel, intellectuel et politique du jésuite Jacques Couture. Ses recherches s'intéressent à la contribution des chrétiennes et des chrétiens aux grandes luttes qui ont façonné la société québécoise contemporaine. Frédéric Barriot, bienvenue à Question d'aujourd'hui.
Bonjour Renaud.
C'est un plaisir de vous accueillir à cette émission et pour avoir un peu suivi vos articles, vos travaux. C'est vraiment une joie de vous recevoir parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui peut vraiment, à travers vos recherches, votre contribution, je dirais votre passion, nous éclairer sur des grands pans de notre histoire collective. Et d'abord, Frédéric Barriot, j'aimerais un peu que vous nous parliez de votre intérêt pour l'étude du christianisme social et de l'engagement des chrétiens et des chrétiennes dans les luttes qui ont façonné la société québécoise.
Bien, je dirais qu'il y a deux points d'entrée qui m'ont mené à m'intéresser passionnément à ce pan quand même négligé de notre histoire collective. Je suis un enfant du Concile Vatican II, je suis un enfant de la Révolution tranquille. Donc, j'ai connu en même temps, j'ai hérité, je dirais, d'une histoire quand même sombre, douloureuse quand même, qui est celle de l'Église catholique au Québec. Mais en même temps, donc comme chrétien aussi, j'aime à dire que l'espérance pascale, c'est que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de notre histoire collective, celle des chrétiennes et des chrétiennes engagées des années 30, 40, 50 à nos jours, qui, justement, s'engagent en différentes luttes pour la justice sociale, pour la justice environnementale, pour la dignité de la personne humaine, qui est, je dirais, négligée ou en tout cas méconnue, pas suffisamment mise en valeur. Et par ailleurs, dans le milieu universitaire, c'est vraiment un paradoxe au sens où il y a vraiment une redécouverte. Il y a de plus en plus de jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Au moment même où il y a des questions quand même lourdes qui se posent du côté de la mouvance sociale chrétienne sur son propre avenir. Donc, c'est un peu ce qui a été vraiment mon souhait, c'était vraiment de faire la jonction entre il y a une mémoire qui est extrêmement vive et en même temps, comment propulser ça vers l'avenir? C'est la sociologue Danielle Hervieux-Léger qui parle d'une lignée croyante et d'une lignée militante. Donc, c'est permettre aux chrétiennes et chrétiennes engagées d'aujourd'hui de se situer dans une tradition longue. Et c'est un peu vraiment ce qui m'anime depuis, je dirais, plusieurs années.
Frédéric Barriot, vous vous intéressez donc particulièrement au visage des catholiques engagés dans la transformation sociale, dans le rapport dans la société québécoise. Et vous vous êtes intéressé particulièrement, non seulement à eux, mais particulièrement à eux, les prêtres ouvriers et le laboratoire de Pointe-Saint-Charles. Alors, pouvez-vous nous parler de ces prêtres ouvriers, de l'histoire, au fond, de ces prêtres ouvriers? Pourquoi des prêtres décident d'avoir un service pastoral, mais d'aller aussi travailler en usine, dans les hôtels, pour rencontrer justement ces travailleurs, peut-être les plus ignorés de notre système social?
Ben, c'est qu'il y a un des paradoxes de la Révolution tranquille. Bon, on le sait, vraiment, ça a été un gros rebrassage, c'est-à-dire que les rôles qui étaient détenus jusque-là par l'Église catholique en éducation, en santé, en services sociaux, sont de plus en plus assumés par le gouvernement québécois. Il y a aussi cette idéologie du rattrapage, hein, où il faut vraiment, littéralement, rattraper le retard que le Québec aurait accumulé pendant les années du régime de Maurice Duplessis. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce de chassé-croisé, au sens où vraiment les institutions laïques qui étaient aux périphéries arrivent en plein centre et les institutions religieuses, elles, vont tendance à se déplacer vers les périphéries auprès de qui, au fond? auprès de ceux qui vont être vus par l'idéologie dominante, ce qu'on appelait l'idéologie du rattrapage, comme des espèces de retardataires. C'est-à-dire les gens, bon, ce qu'on proposait évidemment, c'était une modernisation, c'était un confort, c'était vraiment donc le mode de vie qui est proposé aux Québécoises des années 60 et 70, c'est finalement le bungalow en banlieue, c'est la bonne job bien payante, les jobs à 100 000, aurait dit le premier ministre François Legault. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des catégories qui ont été vraiment laissées pour compte, négligées, autant vraiment dans les régions rurales, je pense aux opérations Dignité, les villages qu'on fermait littéralement, et tous les expropriés d'une certaine manière. Donc, ce qui est intéressant, j'en parlais dans un colloque récemment, ce qui est intéressant, c'est que partout où il y a des expropriés, partout où il y a vraiment des déclassés, on va retrouver de près ou de loin des chrétiens engagés, des chrétiennes et des chrétiennes engagées. Donc, il y a quelque chose là, c'est un signe des temps extrêmement parlant. Donc, l'expérience des prêtres ouvriers, on peut dire, elle avait pas pris au Québec dans les années 50, dans l'après-guerre, mais elle va trouver vraiment une nouvelle signification, une nouvelle couleur dans ce contexte-là où, justement, dans les quartiers ouvriers en pleine décomposition, en pleine désindustrialisation, c'est là vraiment qu'on va retrouver de ces prêtres ouvriers-là. Pointe-Saint-Charles, bien connu à travers le documentaire Les Fils de Manon Cousin, mais il y a plein d'expériences comme ça. Et j'insisterai aussi, c'est pas seulement le fait de prêtres ouvriers, mais c'est aussi le fait de laïcs engagés qui vraiment quittent le confort. Souvent, ils sont nés dans les bonnes classes sociales, la classe moyenne rurale ou la classe moyenne urbaine, et font délibérément le choix. Il y a ici vraiment, je dirais, une spiritualité de l'incarnation extrêmement forte où vraiment vivre l'Évangile, c'est la porter jusque dans sa chair. Ça veut dire vraiment dans une optique vraiment de fraternité qui est vécue jusqu'à vraiment vivre la même vie exactement que les déclassés qui sont justement souvent regardés avec mépris par les technocrates de l'État québécois, par tous les gens qui veulent améliorer finalement nos villes, mais au détriment de gens qu'on n'écoute pas. Qu'on n'écoute pas et qu'on méprise d'une certaine façon.
Frédéric Barriot, vous venez de nous éclairer sur ce que le pape François va dire 40 ans après. Il va rappeler que l'appel à aller vers les périphéries, mais vous nous dites, au fond, ces prêtres, ces religieuses et des laïcs aussi qui décident de quitter peut-être le confort qu'offre leur situation, leur classe sociale, pour aller vivre dans les milieux populaires, pour être avec les gens, c'était déjà aller dans les périphéries.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, vous et moi, on a déjà travaillé sur ce qu'on a appelé le changement systémique, hein, comment vraiment les chrétiennes et chrétiens se contentent plus de la charité. Hein, c'est vraiment la justice, mais aussi c'est apporter des transformations structurantes dans ces milieux-là qui sont vraiment, qui font face à toutes sortes de problématiques économiques, sociales, spirituelles d'une certaine manière. Le cas de Pointe-Saint-Charles qui a été vraiment relevé par la documentariste Manon Cousin, c'est intéressant de voir qu'il y a une communauté de prêtres, les Fils de la Charité, mais il y a aussi tout un réseau de militants d'Action catholique qui sont présents, mais il y a aussi des religieuses. Je pense à Christiane Sibiotte, membre de la communauté des auxiliatrices, qui, elle, va tenir pendant des années ce qu'on appelait la pharmacie populaire. Il y avait la clinique populaire de Pointe-Saint-Charles, des comités logements, un centre d'éducation populaire. Donc, c'est toutes les dimensions, les travailleurs sociaux, c'est-à-dire tous les déterminants sociaux de la pauvreté qui sont attaqués, qui sont mobilisés justement pour aider la population locale. Et surtout, j'insisterai là-dessus, dans une logique aussi de partenariat vraiment, de dialogue avec la population locale, non pas en paternaliste, en disant aux gens ce qu'ils devraient faire, mais plutôt partir de ce qui se dit dans les communautés locales, puis ensemble essayer de transformer vraiment ces déterminants sociaux de la pauvreté. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître dans plusieurs faubourgs à travers le Québec. À Québec, par exemple, c'est clair que moi, je pense spontanément à Saint-Roch, mais surtout, je dirais encore plus dans le quartier Saint-Sauveur. C'est-à-dire que, comme disait Paul-Yvon Blanchette, qui a été militant du mouvement des travailleurs chrétiens, c'est qu'ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé dans Saint-Roch pour finalement s'assurer qu'à travers le comité des citoyens de Saint-Sauveur, notamment, que la population locale, que vraiment l'ensemble des acteurs puissent justement assurer un avenir digne, un logement digne, et préserver ces milieux-là que, s'il n'en tenait qu'au gouvernement, il aurait été rayé de la carte pour construire des condos et des autoroutes et des centres d'achat.
Vous venez de nous permettre de regarder Pointe-Saint-Charles et aussi Saint-Roch-Saint-Sauveur. Revenons, si vous voulez, Frédéric Barriot, à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, pourquoi c'était important pour des prêtres, des religieux, religieuses et des laïcs engagés? Prenons cet exemple-là d'aller à Pointe-Saint-Charles. Qu'est-ce qui se passait? Quel type de transformation? Quartier ouvrier, beaucoup d'usines, le long du canal La Chine, un peu sur les bords du fleuve Saint-Laurent, avec bien sûr l'autoroute 15 qui fait une espèce d'enclave. Hein? C'est comme ça un peu qu'on voit Pointe-Saint-Charles. Qu'est-ce qui se passe à Pointe-Saint-Charles qui est différent peut-être de d'autres quartiers?
Bien, il se passe à Pointe-Saint-Charles ce qui se passe en fait dans la plupart des quartiers du sud-ouest de Montréal. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation, c'est-à-dire que les usines se mettent à fermer les unes après les autres. C'est-à-dire que l'axe qui était à cause de la voie maritime du Saint-Laurent notamment, ben le canal La Chine a perdu à peu près sa fonction initiale. C'était par là que passaient tous les grands navires. Les usines se mettent à fermer les unes après les autres. Il y a bien évidemment les mieux nantis des gens de ces quartiers du sud-ouest-là vont s'exiler vers la banlieue, mais ceux pour lesquels ce déracinement-là est impensable, c'est-à-dire que toute leur vie, elle est enracinée dans Pointe-Saint-Charles, dans Saint-Henri, tous les arrondissements du sud-ouest. Donc, c'est plutôt de partir de cette communauté-là qui fait face à une crise du logement, qui se fait face à des commerces qui ferment, qui font face aussi à des écoles qu'on veut fermer. Donc, comment justement donc revitaliser, mais en partant de la communauté plutôt qu'en partant des promoteurs immobiliers. On le sait quand même que ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de la gentrification, c'est-à-dire vraiment attirer des classes plus aisées pour vraiment essayer de relancer le commerce local, mais ça n'est pas sans coût évidemment pour la communauté locale qui souvent vraiment on voit leur loyer augmenter de manière exorbitante. Donc il y a ce souci vraiment donc de garantir la dignité, s'assurer d'un horizon de justice sociale sans nécessairement exclure. On parlait de ces prêtres ouvriers, on parlait de ces militants d'Action catholique bien nés entre guillemets. Donc c'est ça qu'eux d'une certaine façon étaient des gentrificateurs qui s'ignorent, au sens où même s'ils vivaient très modestement, très humblement, par leur style de vie un peu plus bourgeois, si j'ose dire, venaient quand même modifier des structures. Mais donc, c'est un peu ça, cette idée-là. Donc, c'est vraiment d'assurer vraiment à ces gens pour lesquels leur vie, elle est à Saint-Henri, elle est à Pointe-Saint-Charles, elle est à Ville-la-Salle, donc dans ces arrondissements du sud-ouest, justement, donc s'assurer vraiment donc d'être attentif à ça et permettre justement à la communauté donc de s'épanouir dans toutes les dimensions justement de sa vie sociale et intellectuelle et spirituelle.
Vous avez parlé, vous avez mentionné le changement systémique, Frédéric Barriot. En quoi l'engagement justement de ces chrétiens chrétiennes dans ces milieux populaires, comment ils ont utilisé justement le changement systémique? Qu'est-ce qui était voulu? Quelle transformation sociale et comment ils faisaient que les gens n'étaient pas des récepteurs, mais vraiment des acteurs des changements sociaux?
Je me permettrai de faire du pouce à partir du cas de Jacques Couture sur lequel je prépare une thèse de doctorat et c'est vraiment le cas de figure. Donc lui, il arrive avec, oui, je pense que tu sais, il y a dès son ordination une volonté, il est mu vraiment par ce qu'on appelle l'option pour les pauvres. Donc lui, c'est vraiment un souci extrêmement, donc de travailler par, pour et avec la communauté. Donc il arrive au départ, il se met à l'écoute. Il se met à l'écoute, donc il va fonder d'abord un groupe familial ouvrier à la paroisse donc de Saint-Henri. Éventuellement, va contribuer vraiment aux activités du comité de citoyens. comité de citoyens qui va vraiment identifier un certain nombre de problématiques sociales avec lesquelles la population est confrontée, la question des revenus, la question du coût des loyers, la question de l'inflation qui est pas une nouveauté. Dans les années 70, il y a une flambée inflationniste. Je pense aux gens qui ont perdu leur maison dans les années 80 en savent quand même quelque chose. Et donc, travailler par, pour et avec la communauté à un point tel qu'à un moment donné, Couture va être, je dirais, coopté, c'est-à-dire va se faire tirer par la manche, donc par le parti politique de gauche de l'époque qui s'appelle le RCM, le Rassemblement des citoyennes et des citoyens. Et moi, je trouve ça particulièrement délicieux, en pleine Révolution tranquille, que ce soit un père jésuite qu'on choisisse pour être candidat à la mairie contre l'indélogeable Jean Drapeau. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est-à-dire que Couture, à travers toute cette démarche-là de consultation, c'est ça, c'est que vraiment, on passe vraiment, je dirais, j'ai tendance à dire que c'est de l'ultra-local, ça part de la paroisse, éventuellement, ça va s'étendre à l'échelle, donc du quartier, éventuellement de tout le sud-ouest de Montréal, et on va le retrouver des années plus tard, éventuellement, donc, candidat à la mairie et même député péquiste de Saint-Henri, où sera par la suite des ministres du Travail et ministres de l'Immigration. Donc, c'est intéressant de voir justement, et à chaque échelle où va se retrouver Couture, avec toujours ce même souci, bien entendu, donc de agir sur ces déterminants-là et vraiment changer durablement le mode de vie, la qualité de vie, mais aussi la dignité. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment mu par cette idée-là de la dignité de la personne humaine qui traverse, je dirais, tous ses engagements.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Frédéric Barriot qui nous parle de l'engagement et la contribution des chrétiens et des chrétiennes aux grandes luttes qui ont façonné la société québécoise contemporaine. Frédéric Barriot, j'aimerais qu'on revienne sur l'itinéraire de Jacques Couture. D'abord, il est né en 1929 dans la Haute-Ville de Québec et se destine d'abord au droit. Et il va faire la découverte, justement, de la misère des quartiers ouvriers de la basse ville de Québec. Et il va décider, il va discerner d'abord une vocation religieuse. Il entre chez les Jésuites. Il va aller à Taïwan pour étudier la langue chinoise. Il va revenir à Montréal. Il va venir à Montréal en 1964. Il va être ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans ces années de Vatican II, qui influence justement la trajectoire, entre autres, du père Jacques Couture.
Ce qui est intéressant dans le cas de Jacques Couture, en fait, c'est que je dirais vraiment qu'il devance d'une certaine manière certaines des transformations qui vont arriver beaucoup plus tard du côté de la Compagnie de Jésus. Oui, bien sûr, dans les années de l'immédiat concile, vers la fin du concile Vatican II, en fait, donc le supérieur général va mourir, donc le père Janssen, il va être remplacé par le père Pedro Arrupé. Mais je dirais qu'il y a une période, je dirais, un peu d'attentisme. Il faut bien comprendre aussi, donc, la Compagnie de Jésus, à la fois qui ont vraiment un zèle missionnaire à l'échelle des missions en Chine et un peu partout à travers le monde, mais historiquement, ils ont quand même été associés à la reproduction des élites sociales. Hein, vraiment, ils sont très enracinés dans le monde bourgeois. Donc, c'est par les collèges classiques très jet-set comme Collège Brébeuf, Collège Charles Garnier, donc qu'il y avait une certaine reproduction sociale dans les milieux quand même nantis. Ça ne veut pas dire que leur souci pour la justice était moindre, mais quand même, ce qui va se produire pendant les années du Concile Vatican II, et je dirais vraiment, Couture est un, je dirais peut-être le canari dans la mine, au sens où il a senti ces choses-là arriver, c'est qu'en fait, les Jésuites vont discerner en commun dans deux congrégations générales importantes, la 31e et la 32e, qui va faire de l'engagement pour la justice et de l'option pour la foi le cœur, je dirais, de la présence jésuite au monde, ce qui va faire que ça va démultiplier, je dirais, les expériences, justement, d'insertion en milieu ouvrier. Couture est en avance, c'est-à-dire qu'en 64, le conseil n'est pas encore tout à fait terminé, et lui, vraiment, on dirait qu'il a pressenti ça, mais à sa suite, il va avoir toute une communauté jésuite qui va s'installer dans le quartier Saint-Henri, qui vont faire un travail à peu près analogue au sien, mais avec des tonalités, je dirais, qui sont intéressantes. Je pense à son confrère Rosaire Tremblay, qui faisait vivre, par exemple, les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola à des catholiques ouvriers bien ordinaires. Donc, pendant très longtemps, qui faisait les exercices spirituels? C'était vraiment des gens bien nés, passés dans des bons réseaux. Donc, et pourquoi utiliser justement cette spiritualité active, pour penser sa réalité à partir de là où ces personnes avaient les pieds. Et dans une optique, vraiment, je dirais que Couture aussi est tout à fait dans l'esprit donc de ce qu'on va appeler éventuellement la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Donc, c'est-à-dire vraiment partir de justement de ce qui se dit, ce qui se vit, partir vraiment de un peu ce que les catholiques ont vécu d'une certaine manière récemment avec les démarches de synodalité, c'est-à-dire que on quitte le modèle de l'Église enseignante qui a déjà toutes les réponses, qui est là pour dire le vrai et le faux, et plutôt partir de ce qui se vit, partir de ce qui est ressenti, partir de ce qui se passe donc sur dans les réalités vécues. Mais c'est ça, il y a quelque chose de vraiment très singulier au sens où vraiment il y a eu une vocation sociale très, très, très intéressante. Et une nuance ici importante à souligner, c'est que Jacques Couture n'est pas ce qu'on appelle un jésuite sociologique au sens où il s'est écoulé quand même quelques années entre sa sortie du collège Saint-Charles Garnier et son entrée dans la Compagnie de Jésus. Et l'un de ses confrères me disait qu'il l'a côtoyé au noviciat. Il dit c'est un homme avec vraiment une foi mystique brûlante. Vraiment, quand il entre dans la Compagnie de Jésus, il a vraiment vécu ce que les théologiens appellent une métanoïa, un retournement complet. Je dirais vraiment, c'est surtout à son retour, je dirais, d'Asie. Puis déjà là, on sent vraiment, il y a une sensibilité à cette question-là. Même dans une revue missionnaire, on sent vraiment qu'il y a un souci déjà marqué et ça va le traverser, je dirais, tous ses engagements ultérieurs par la suite.
Frédéric Barriot, merci de signaler justement cette expérience très forte mystique qu'il portait. Et aussi, ce qui est frappant aussi, en 1964, il va écrire un article dans la revue Relations qui plaide en faveur d'une église des pauvres. Et ça, nous, on va retrouver ça aussi particulièrement avec le pape François. Une chose qui est frappante aussi dans son parcours, c'est que il décide d'aller justement dans le domaine politique et ça ne semblait pas faire problème pour les jésuites.
Oui et non, c'est-à-dire que au moment où il est allé en politique municipale, ça n'a pas passé quand même comme une lettre à la poste. Je dirais que il y avait quelques cas quand même d'engagement politique. Par exemple, aux États-Unis, il y avait l'un de ses confrères qui s'appelle Robert Drennan, qui était vraiment il était doyen de la faculté de droit du Boston College, qui aura fait de la politique active du côté du Parti démocrate pendant presque 10 ans. De plus en plus, en fait, effectivement, ça a commencé à poser problème. Et donc, Jean Couture, quand il décide de faire le saut, en fait, avec le Parti québécois, il va devoir, en fait, quitter la Compagnie de Jésus. On va lui demander donc de cesser d'être jésuite. Et en fait, il va être incardiné comme prêtre titulier dans le diocèse de Gatineau-Hall, ce qui est pas anodin à mon sens, parce que dans ces années-là, vraiment, c'était le diocèse probablement le plus social qu'on avait au Québec.
C'est très intéressant ce que vous dites et j'aimerais, parce qu'il nous reste très peu de temps, Frédéric Barriot, c'est tellement intéressant, mais quel est son grand apport comme ministre de l'immigration du Québec? À quoi il va contribuer particulièrement?
C'est l'accueil, je dirais vraiment, des migrants et des réfugiés. Deux éléments vraiment fondamentaux à faire ressortir. D'abord, l'accueil des boat people d'Asie du Sud-Est, vietnamiens, laotiens, cambodgiens. Donc, il va vraiment littéralement aller même sur place pour vraiment faciliter leur accueil et leur intégration. Et vers la fin de son mandat, il y avait un certain nombre de réfugiés haïtiens qui étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire québécois. Le gouvernement fédéral voulait les renvoyer manu militari à Haïti en pleine répression du régime de Duvalier et il va obtenir, il va mettre en place donc la régularisation de leur statut. Je dirais, en deux mots, vraiment, il incarne deux éléments fondamentaux pour moi, Jacques Couture. Un, la sensibilité pluraliste du nationalisme québécois qui, quand même, ne va pas particulièrement bien ces dernières années. Mais surtout, Jacques Couture permet aussi de penser à nouveau frais le récit de la Révolution tranquille dans lequel la foi et même, je dirais, même le clergé catholique et même tout ce qui rappelle l'Église catholique aurait été vraiment repoussé aux marges de la société québécoise. On se rend compte que par sa trajectoire, qu'il y a un rapport beaucoup plus apaisé à cet engagement sociopolitique des gens d'Église qu'on l'a longtemps cru ou en tout cas on se l'est longtemps raconté, puis je dirais encore plus au prisme des débats des dernières années sur la laïcité dans l'espace public.
Quel est son grand apport par rapport au bien commun, par rapport au vivre ensemble, Jacques Couture? Quel est son grand, grand apport? Au-delà de l'accueil des réfugiés, est-ce qu'il n'y a pas changé quelque chose dans la manière qu'ont les Québécois d'accueillir les gens?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. La signature de Jacques Couture, je dirais, c'est la mobilisation de vastes pans de la société civile. Donc, plutôt que ce soit le gouvernement qui soit maître d'œuvre absolu de l'accueil des réfugiés, c'est au contraire par des collectivités locales, des paroisses, des groupes de citoyens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système de parrainage privé, donc qui a fonctionné et qui fonctionne encore, qui fonctionnait relativement bien. Je pense à l'accueil des réfugiés syriens en 2015-16. Ces réseaux-là qui ont été mis en place dès l'époque de Jacques Couture sont encore aujourd'hui extrêmement vivaces et ça dit quand même quelque chose. J'aurais envie de conclure. Je pense vraiment aux propos vraiment de Kim Thuy il y a quelques semaines. Elle qui a été accueillie, dans la ville de Granby. Donc, il y a une réussite d'intégration, y compris dans les régions du Québec. Et je sens à travers des propos comme ça que c'est quelque chose comme ce maillage social-là qui est un peu, en tout cas, brisé par des politiques vraiment qui ont tendance à pointer du doigt justement les immigrants comme étant la cause de tout ce qui va mal chez nous, alors que il y a toute autre expérience de l'époque de Jacques Couture. Il n'était pas seul là-dedans, mais donc une autre manière de se représenter, notre manière de vivre ensemble. C'est les années aussi de la loi 101. Donc moi, je suis un enfant de la loi 101. Ben c'est ça. Donc avec Jacques Couture, je pense que on a vraiment un condensé, je dirais vraiment, de ce qu'il y avait ce qui restait peut-être de l'esprit d'Expo 67, hein, d'un Québec ouvert sur le monde, d'un Québec vraiment capable de se réinventer et de créer vraiment du lien social et une solidarité, je dirais, presque enivrante d'une certaine façon, en tout cas inspirante.
Frédéric Barriot, on aurait pu parler très, très longtemps. Merci de nous avoir parlé justement de l'engagement des chrétiens et des chrétiennes dans les milieux populaires. On aurait pu faire plusieurs émissions. Merci de nous avoir rappelé la mémoire de Jacques Couture, qui reste un personnage, une personne très importante pour le Québec et aussi pour les chrétiens et les chrétiennes. Merci beaucoup, Frédéric Barriot.
Merci, merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.